Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai déjà eu, il me semble, l'occasion de le dire ici, mais s'il y a bien un domaine de notre vie à tous avec lequel je suis particulièrement mal à l'aise, c'est l'économie. J'en tire aucune fierté, il n'y a aucune gloire dans le fait de ne comprendre que très péniblement des enjeux qui pourtant guident une bonne partie de la façon dont fonctionne le monde. Forcément, tout paumé que je suis dès qu'on aborde ces territoires hostiles, c'est avec un mélange de curiosité et d'effroi que j'ai toujours regardé le monde de la haute finance, et précisément le boulot des traders, ces as de la spéculation dont je n'ai finalement que l'image sans doute totalement déformée qu'en a tirée la pop culture à coups de films et de séries. Une vision très déshumanisée, si on y réfléchit bien, qui exclut donc de fait la possibilité que ces mêmes traders puissent dans la vraie vie se trimballer un sacré paquet de doutes quant à la finalité, voire la vanité de leur boulot. Certains d'ailleurs décident parfois de s'en éloigner, de lâcher leurs très lucratives activités pour retrouver un peu de sens. Ce sont ces repentis de la finance qui sont au cœur du reportage qui suit. Il est signé Morgane Rémy, Quentin Bresson et Solène Moulin l'ont réalisé et ils forment notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Il et elle y sont venus par appât du gain ou parce que c'était la voie royale. Il et elle ont aimé l'adrénaline de la compétition et l'accès à une carrière prometteuse. Puis après, les subprimes, l'encadrement des bonus, les années qui passent, les horaires à rallonge, la répétition, tout cela perd de sa saveur. Ce sont d'anciens traders, mais aussi d'anciens auditeurs ou gestionnaires de fortune. Ce sont d'anciens financiers qui ont décidé de tourner la page. Ils ont pour point commun d'avoir du recul sur leur ancienne profession et donc sur le système financier dans lequel ils ont baigné, auxquels ils ont contribué et qui les a nourris. Je vous propose de retrouver Caroline et Eric, d'anciens traders, mais aussi Aline et Billy, qui ont travaillé à vérifier les comptes des plus grandes entreprises. Commençons avec Eric Brun, 52 ans, un ancien trader donc, qui a longtemps gagné entre 150 000 et 300 000 euros par an. Pourtant, il a une particularité, celle de toujours avoir été un anticapitaliste chevronné.
Je m'appelle Eric Brun et on peut dire que je suis coach oratoire, c'est-à-dire que j'apprends aux gens à parler en public. Ces gens sont des professionnels, des managers si on veut, des leaders, et je leur apprends à parler en public sans aucune note et sans aucun support. C'est assez rare ça. Sans aucun support, sans PowerPoint, pendant à peu près 20 minutes. J'ai œuvré dans la finance de marché. J'ai été trader. J'ai été trader pendant une petite dizaine d'années sur un produit très spécifique. Tous les traders sont traders sur des activités ou sur des produits spécifiques. En l'occurrence, moi, c'était des obligations convertibles. Et même quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a plusieurs façons de traiter les obligations convertibles, et notamment ce qu'on appelle l'arbitrage d'obligations convertibles, et c'est ce que je faisais, de l'arbitrage d'obligations convertibles. Le but du jeu, comme le but du jeu de tout trader, c'est de faire de l'argent. Pour l'établissement qui emploie le trader, sachant qu'une part de cet argent reviendra au trader sous forme de prime, d'intéressement au résultat. Le trading est utile à l'économie, mais est-ce que l'économie est utile à la société? C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que l'économie n'est pas utile à la société. Je pense que l'économie l'économie depuis le début, l'économie comme activité séparée des hommes, met en œuvre une sorte de processus de dégradation d'une part de la vie humaine et, on le voit maintenant, de l'environnement. J'ai toujours été anticapitaliste. Moi, j'ai pu tenir 10 ans. Ceci dit, ce que je vous dis tout de suite, j'aurais pu vous le dire pendant que je le faisais. D'ailleurs, je le disais, et c'était aussi une des raisons peut-être qui m'ont activé moi-même, c'est qu'à force de le dire, il devenait absurde que je reste. On est plus ou moins lâche dans ce genre de situation. une fois qu'on a repéré cette mauvaiseté du monde, jusqu'où on accepte de se mêler à ça. En effet, je n'étais pas très fier de la manière que j'avais de vivre, mais ça ne me déplaisait pas tant que ça non plus. C'était assez excitant. C'est bien d'avoir une vie ou des activités excitantes. Disons que j'en avais fait la critique théorique, mais c'est une chose de faire la critique théorique et c'en est une autre de ressentir presque charnellement cette critique. Donc j'ai commencé par la faire de manière théorique jusqu'au moment où probablement je l'ai ressentie charnellement. Alors je me suis trouvé à un moment où je me désintéressais beaucoup de cette activité qui, on peut s'en douter, est assez répétitive malgré tout l'intérêt qu'elle peut avoir, notamment un intérêt de jeu. C'est très excitant, le jeu. Bien, mais ceci dit, au bout d'un certain temps, ça peut lasser. Et ça m'a lassé. Et ça m'a lassé à un point tel que je t'ai devenu incapable de réfléchir à ces sujets. Incapable, c'est-à-dire que je n'étais pas capable de me concentrer pour réfléchir et trouver des stratégies, les mettre en œuvre, enfin, passer le temps qu'il fallait pour travailler. Je n'y arrivais plus, littéralement.
Caroline Attia, elle, a adoré l'ambiance et l'adrénaline de ce milieu professionnel. Elle ne regrette rien. Celle qui a fait plus d'un quart de siècle dans les salles de marché a tout de même fini par se lasser. Elle est devenue psychologue et accompagne aujourd'hui des professionnels, dont des traders justement. Elle nous accueille aujourd'hui dans son cabinet, dans le 8e arrondissement de Paris.
Alors, je suis Caroline Attia, j'ai 58 ans, je suis psychologue et j'ai été pendant 25 ans trader. En gros, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de traders, ou en tout cas, il y avait deux sortes de traders. Ceux qui prennent des positions, c'est-à-dire qui font des paris pour essayer de gagner de l'argent, donc qui achètent ou qui vendent en espérant que s'ils ont acheté, le cours va monter, qu'ils pourront revendre plus cher. Donc ça, on peut dire qu'ils font du trading pour compte propre, ils prennent des positions. Et la deuxième sorte de trader, je dirais, c'est ce qu'on appelle des market makers. Ce sont des traders qui font des prix sur les produits financiers sur lesquels ils travaillent. J'ai commencé en 1985 jusqu'à 2012, donc pendant une assez longue période. Donc c'était intéressant, c'était jamais tous les jours la même chose. Il y avait donc aussi ce petit côté excitation, je dois dire. Et comme auparavant j'avais été sportive de haut niveau, je retrouvais un peu l'adrénaline de la compétition dans ce nouveau métier. Le fait de gagner de l'argent, c'est vraiment pas quelque chose qui a pu me rendre fière. Ou... Non, je pense qu'au début, moi, ce que j'aimais bien, c'était expliquer à des agriculteurs, parce que je travaillais au Crédit Agricole, et expliquer à ces agriculteurs comment ils pouvaient utiliser les marchés financiers pour se protéger leur activité contre les risques de taux, éviter qu'une hausse des taux ne leur fasse perdre de l'argent, par exemple. Donc, au départ, tout se faisait à la voix. On travaillait avec des contreparties, on faisait des opérations à la voix, au téléphone. Et peu à peu, donc, sont arrivées les plateformes électroniques où donc une contrepartie vous interrogeait, vous demandait un prix sur telle ou telle chose. Et donc, vous deviez lui répondre. Au début, vous répondiez à la main et ensuite, c'était tout automatisé. C'est-à-dire qu'il fallait faire un lien entre les outils de pricing, donc de calcul de prix, et envoyer ces prix-là sur la plateforme de trading électronique. Je pense que les particuliers peuvent voir de quoi je parle, puisque actuellement, maintenant, même un particulier qui va acheter des actions, il le fait en ligne. Donc ça a été le développement le plus notable. Sauf que ce qu'on traitait, c'est des produits qui étaient plus compliqués qu'une action et dont le prix était beaucoup plus compliqué à calculer, qui nécessitait des fonctions de calcul qui étaient complexes. Et en plus, il fallait que ça aille rapidement, puisque comme les marchés évoluent vite, il ne fallait pas que, quand on réponde à un prix, il se passe ne serait-ce que quelques secondes, puisque le prix pouvait alors avoir bougé. Au début, donc, c'était l'explosion des marchés financiers sur les marchés dérivés, donc des marchés un peu plus complexe, hein, qui nécessitait de mettre au point des logiciels de pricing, hein, mais c'était le tout début de l'industrie. Donc à la fin, en 2012, ça a terriblement évolué. les prix devaient être faits quasiment au microscope. Hein. Et puis surtout, au début, on s'adressait davantage à une clientèle finale, c'est-à-dire que la banque avait ses clients finaux, qui étaient la plupart du temps des entreprises. Quand je travaillais au Crédit Agricole, par exemple, j'avais parfois des producteurs d'œufs en ligne. Hein, donc c'était vraiment lié à l'économie réelle, j'allais dire. Et puis peu à peu, il y a eu l'arrivée de hedge funds, donc des structures chargées de gagner de l'argent, et donc qui étaient là vraiment... pour demander des cotations aux market makers dans les banques et essayer de les coller. Alors, de les coller, ça veut dire de leur faire faire une erreur hein, sur des trucs très compliqués. Et donc, au fur et à mesure, il a fallu faire des outils de pricing qui soient vraiment très, très bien réglés, de manière à ne pas perdre d'argent à cause des hedge funds. Et donc ça, c'est devenu très agaçant parce qu'ils essayaient toujours de chercher la petite bête sur des trucs très compliqués. Et donc, comme il fallait qu'on fasse du volume, on ne pouvait pas refuser de leur indiquer un prix parce qu'après, sinon, on se faisait gronder, entre guillemets, par nos supérieurs qui nous disaient « Mais vous devez faire du volume. » Et sans distinguo. Donc oui, ils étaient là vraiment pour nous faire faire des erreurs. Absolument. J'ai connu la crise des subprimes en 2007-2008. C'est une évolution qui est complètement folle. Les prix partent dans tous les sens. C'est très difficile de solder sa position. Parfois, on ne trouve aucune contrepartie. Et c'est surtout ça qui est terrible, c'est que on peut avoir besoin d'acheter, on ne trouve aucun vendeur, ou on a besoin de vendre, on ne trouve aucun acheteur. Et ce qui a été dramatique dans cette crise de 2007-2008, c'est qu'au total, les banquiers se sont tellement méfiés les uns des autres qu'ils voulaient plus prêter un centime. Or, les banques, elles ont besoin le soir... d'avoir une trésorerie à zéro, elles ne peuvent pas être à découvert, sinon elle fait faillite, vous voyez. Et donc il y avait des banques qui ne trouvaient plus du tout de fonds pour emprunter parce qu'il n'y avait aucune contrepartie qui voulait leur prêter, étant donné que personne ne savait qui détenait ces fameux actifs pourris qu'on appelait les subprimes. Donc ça a été vraiment dramatique et il y a d'ailleurs des banques qui ont fait faillite.
La finance, ce n'est pas que les banques et les salles de marché. Il y a aussi la finance d'entreprise et celle des particuliers qui préparent leur retraite ou permet d'acheter un appartement. Billy Chevalereau, 37 ans, a évolué dans ce milieu. Mais il a toujours su que la finance ne serait qu'une étape. Il voulait du concret, alors il a fait du béton et a lancé sa propre boîte. Nous le retrouvons à Aubervilliers, dans son atelier.
Donc là, on va rentrer dans le showroom. Il y a une petite présentation des produits qu'on fait. Donc, French Viking, aujourd'hui, on fabrique du mobilier en béton. 70% de notre activité, c'est du sur-mesure. On va travailler avec des boîtes comme Galerie Lafayette, L'Oréal, Maje, Frida. Et le reste, c'est grand public, où on vend objets et accessoires de déco en béton. Ça a du petit porte-savon jusqu'à la table, en passant par la lampe, le vide-poche, la jardinière. Qu'on va vendre soit en produits prêts à l'emploi à nos clients, soit que nos clients vont venir fabriquer avec nous au cours d'un atelier, soit qu'ils vont fabriquer chez eux tout seuls grâce à un kit qu'on a mis au point qui s'appelle le coffret. Alors moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, je suis rentré chez Ernst & Young, donc en audit financier. J'ai passé quasiment 4 ans là-bas. Alors moi ça reste une expérience que j'ai appréciée, qui est stimulante, parce que déjà on progresse, on est dans une organisation qui est dynamique, tous les ans on a de nouvelles missions, on commence comme assistant 1, assistant 2, junior, etc., puis senior. Donc il y a une vraie progression, il y a un dynamisme dans la structure qui fait que c'est motivant. Première chose. Deuxième chose, après ça reste une expérience qui est difficile dans le sens où on a 15 jours qui sont payés par un client pour venir faire une mission d'audit. Au bout de 15 jours, il faut que ce soit fini. Il y a un côté enquête-investigation, mais ce n'est pas le côté le plus développé. Vraiment, le côté le plus développé, ça va être le pointage. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver chaque justificatif, le pointer, s'assurer que les pièces sont bien réelles et exhaustives, etc. Donc, c'est pas cache investigation, hein, loin de là. Alors, on le sent pas forcément quand on est dedans. Après, moi, j'avais un client qui était un client particulièrement difficile, où la compta, ça allait mal, où on avait de gros soucis, etc. Et là, clairement, on voit très vite les blocages du système. Bah, c'est un gros contrat, c'est un client qui paye tous les ans, on peut être reconduit, dans X temps, c'est le renouvellement du mandat, machin, etc. Donc, mécaniquement, l'associé qui signe les comptes et qui fait rentrer du chiffre d'affaires, il va pas lui mettre un 0 sur 20 ou lui mettre un carton rouge. On essaie toujours de trouver des façons de compenser, que tout le monde soit un petit peu satisfait. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est un petit peu biaisé. Donc, j'ai arrêté l'expérience Ernst & Young pour ensuite monter une première société. Ça a duré 2 ans, ça n'a pas du tout fonctionné, c'était un fiasco total. Donc suite à ça, je suis reparti travailler en finance et là, j'avais changé de fonction puisque je faisais de la gestion de patrimoine dans une compagnie qui s'appelait Le Conservateur. Et après, autant en audit, j'avais moins l'aspect moral parce que même s'il y a la relation client et cabinet d'audit qui peut être particulier, fondamentalement, on fait quelque chose qui est important, qui va empêcher les entreprises de faire n'importe quoi en termes comptables et financiers. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, avoir un regard un peu critique sur la relation qu'il y a. On apporte quelque chose, on apporte une expertise, on apporte un peu un guide pour éviter que les entreprises partent dans tous les sens. Conseiller en gestion de patrimoine, on vend du placement financier, d'accord ? Pour des gens qui vont vouloir soit transmettre des fonds via de l'assurance vie, pour des gens qui vont constituer leur retraite, pour qui vont financer les études de leurs enfants pour dans 20 ans, etc. Et donc, on vend du produit financier. Et quand on vend du produit financier, on aurait presque trop tendance à croire que le produit qu'on veut vendre, c'est celui qui va forcément le plus correspondre au client. D'accord ? On va vendre celui qui est le plus rémunérateur pour l'entreprise. Désolé de le dire, mais malheureusement, c'est comme ça. On ne vous le dira jamais vraiment comme ça, de façon noire sur blanc, mais c'est des petits mécanismes qui sont un petit peu presque malsains. C'est-à-dire que vous êtes un commercial entre un produit A et un produit B. Le produit A est plus destiné à un épargnant classique qui ne veut pas prendre de risques, etc. Et le B va être un peu plus risqué, certes potentiellement plus rémunérateur, mais surtout plus risqué. L'entreprise veut vendre le produit B. À aucun moment, elle va dire à ses commerciaux, vous me vendez tous les produits B. Par contre, sur le produit A, elle va vous mettre 3% de rémunération et sur le produit B, elle va vous mettre 12% de rémunération. C'est QFD, vous vendez des produits B. Voilà. Et donc, c'est ça, plus ce genre de fonctionnement où des fois, on se dit, est-ce qu'on défend les intérêts de l'entreprise ? Est-ce qu'on défend les intérêts de l'épargnant ? Est-ce qu'on défend nos intérêts ? Et je pense que je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 2 ans et demi, donc ça reste une expérience courte, mais je pense que quand on fait ce métier-là pendant 10, 15 ou 20 ans, et il y a forcément des moments où on fait des choix qui ne sont pas forcément bons, qui vont avoir des impacts lourds sur la vie de nos clients ou de nos épargnants, et je pense que c'est typiquement le genre de métier qu'on a du mal à faire longtemps, et on se fait, à mon avis, vite rattraper par la conscience. Enfin, c'est moi ce qui me serait arrivé, en tout cas, si j'étais resté dans cette position. Alors, clairement, il y a une grosse concession en termes de salaire. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est compensé par autre chose. Mais chez Ernst & Young, j'ai dû commencer. Donc, premier salaire, je devais être à 2006 net, ou peut-être 2005 plutôt. Et quand je suis parti, j'étais à un peu plus de 3000 euros net par mois. Ça, c'est hors prime. Donc, ça commence à faire des salaires qui sont très corrects, hein, surtout pour un premier job. Et quand j'étais en gestion de patrimoine, c'était différent parce qu'on était 100% variable. Il y avait un petit fixe et 100% variable. Mais je me rappelle un jour avoir signé un contrat à 650 000 euros. Je pense que j'avais dû prendre 18 000 euros de rémunération. Juste sur un contrat. Donc, clairement, aujourd'hui, French Viking, c'est pas ça. Et si demain, on signe 18 000 euros de commission, je me mettrai pas 18 000 euros dans la poche, mais j'utiliserai ça pour investir ou recruter. Donc, de toute façon, après, je pense que peut-être que chez French Viking, si demain, on avait fait d'autres choix que celui de développer l'entreprise, de recruter, on pourrait peut-être se payer aussi bien qu'on se payait en finance. Mais c'est pas la vision qu'on a. La vision qu'on a, c'est aussi de développer le business et de recruter du monde. Et le premier sacrifice qui passe, c'est celui de se rémunérer soit un peu moins.
Billy, dans sa carrière, a croisé Aline Bartoli, 39 ans. Nous sommes aussi allés la rencontrer. Cette sophrologue raconte le mal-être qu'elle a vécu à cause du décalage entre ce qu'elle était et le rôle qu'elle devait jouer.
Alors aujourd'hui, j'exerce en fait deux métiers. Je suis à la fois thérapeute, donc j'exerce en profession libérale, et à la fois enseignante en hypnose et en PNL. Et j'ai créé ma propre structure de formation qui s'appelle Sofrenzen. Alors, d'où je viens ? Je viens d'une école de commerce, issue d'une prépa HEC. Je suis issue du monde de l'entreprise. Donc pour moi, c'est une reconversion totale. Je ne me suis pas réveillée un matin à 20 ans en me disant « je rêve d'être psy ». C'est maintenant la démarche dans laquelle je suis, mais ce n'était pas du tout la démarche à l'époque. J'ai vu trois métiers, en fait. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en finance avant de me reconvertir. Et le premier a été d'être auditeur, comptable et financier chez Ernst & Young. Donc, la question du sens, elle est venue très tôt quand j'ai débarqué dans ce milieu-là. Et elle m'a suivi les dix années que j'ai passé en entreprise à me dire, mais ça sert à quoi ce que je fais ? Quand je faisais de l'audit chez Ernst, c'était me dire, OK, je fais des tests pour faire des contrôles, finalement apparaîtra dans des comptes qui sont certifiés de boîtes cotées au CAC 40 sont vrais, sont justes, etc. Mais qu'est-ce que j'apporte vraiment au monde ? Enfin, d'une façon plus globale, quel est le sens au niveau de ce que j'apporte à la société, d'une façon globale et pas à l'entreprise ? Qu'est-ce que j'apporte au niveau conscience globale, collective ? Quel est mon apport à moi ? Et c'est là où je me suis sentie très perdue très vite. Donc après, j'ai réussi à tenir, on va dire, parce que pour moi, c'était vraiment ça. C'est avec du recul, j'étais plus dans l'ordre de la survie qu'autre chose. Dans la deuxième entreprise où j'ai pu faire de la coordination investissement, ce qui m'a rattachée à du sens, c'est que justement, j'ai fait ces 6 mois en coordination, j'étais avec des personnes avec qui j'ai changé, je parlais, on construisait des projets ensemble, donc quelque chose de plus collectif et de plus, on va dire, avec plus de cohésion. Et là, c'était intéressant. Mais quand je suis retournée à un boulot où j'étais cantonnée à un bureau, où je pouvais rester toute seule, des journées entières enfermées sur des tableurs Excel, là, ça sert à quoi ce que je fais ? Alors, ça sert à finalement faire gagner encore plus d'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup, parce que des gens qui montent des sociétés immobilières aujourd'hui sont déjà des gens qui ont des grosses fortunes, parce qu'il faut avoir l'argent pour investir initialement. Donc, j'aide des gens à s'enrichir encore plus, mais quel est le sens de ça pour moi ? Zéro, en fait, aucun. Donc, c'est à ce niveau-là que je ne me suis pas du tout retrouvée. Les 10 ans que j'ai fait en entreprise, pour moi, c'est une autre personne qui a vécu en entreprise. C'est clairement cette Aline-là, elle est morte, en fait. Alors, je ne vais pas dire que j'ai des regrets, mais je me dis quand même j'ai passé les 10 plus belles années de ma vie où j'étais la plus jeune, la plus jolie, au top de ma forme, bloquée dans un bureau à faire un métier où j'étais habillée en croque-mort. Un jour, ma mère me dit « mais tu me fais peur habillée comme tu es » parce que comme j'étais dans un milieu quand même très masculin, j'étais qu'à habiller avec du janvier à 31 décembre, un costard noir, un col roulé, des chaussures plates, pour pas trop attirer le regard. Parce qu'il y a aussi ça, quand on est une femme en entreprise, c'est pas évident, surtout dans un milieu masculin. Donc ces 10 années-là, je dirais que c'était la survie, en fait. Jusqu'à avoir, on va dire, l'apothéose en termes négatifs, ou plutôt l'écroulement total en 2013. Où c'est vraiment 2013-2014 qui ont été pour moi des années très dur, où là, c'est une grosse remise en question à titre personnel des choix que j'ai fait jusque-là. Autant j'aurais pu, les années précédentes, encore faire bonne figure à un entretien, comme on sait bien faire quand on s'entraîne, etc., à donner les réponses que le recruteur attend pour se faire embaucher, parce que finalement, c'est quand même un jeu de rôle, je dirais quand même, l'entretien. Là, cette année-là, en 2013, je n'aurais plus été capable, d'ailleurs, je crois que j'ai passé de mémoire à un entretien, mais dans lequel je n'arrivais plus, en fait. Je pense qu'il n'y avait plus de congruence entre ce que je disais et puis la manière dont je le disais, ce qui a fait que ça n'a rien donné, parce que j'étais plus du tout capable de me mentir à moi-même. Donc, à un moment donné, c'est ma tête qui n'était plus du tout d'accord pour obéir. Donc, effectivement, je ne pouvais plus faire marche arrière, en fait. C'était plus possible.
Merci à Morgane Rémy pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson et Solène Moulin pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Pour ne rater aucun de nos épisodes, le mieux c'est encore de vous abonner sur votre appli de podcast préférée. Si par le plus grand des hasards, cette appli n'est autre qu'Apple Podcast, sachez que 5 étoiles seront toujours les bienvenues. Facebook, Twitter et consorts, c'est pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.